France Inter, le 18-20.
Je change d'heure un peu après tout le monde. Il est 18h17 maintenant. Une semaine en France. Rugby ce soir avec le début de la tournée d'automne du 15 de France. Le rugby, un sport de voyous joué par des gentlemen, dit-on. À nos côtés, un rugbyman, un gentleman du rugby français, Thomas Lombard, directeur général du rugby du Stade français. Paris, ancien joueur international, et un livre publié aux éditions de La Martinière, Transformation, une vie de rugby. Avec Thomas Lombard, nous parlerons du top 14, d'un sport qui change, qui évolue, du rugby et de l'écologie. Comment concilier rugby et études supérieures? Est-ce que c'est possible? Et on abordera également la question de la violence dans ce sport. Et bien sûr, la tournée d'automne de l'équipe de France qui débute demain soir. Thomas Lombard nous dira comment on se prépare pour ces test-matchs d'automne. La composition du 15 de France a été donnée hier et c'est une équipe forte, nous dit Fabien Galthié, le sélectionneur.
Voilà, sur le jeu, continue à progresser, être en capacité de produire un rugby qui nous permet d'être plus fort partout sur le terrain, sur les phases de conquête, sur les phases offensives, sur les phases défensives.
Et les adversaires, ils sont forts aussi. L'Argentine demain soir, puis la Géorgie. Et nous sommes à 15 jours des All Blacks. Également au sommaire de cette édition, préparée par Colin Gruel et réalisée par Juliette Gou. L'actualité de la semaine avec le prix Goncourt à l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. La présidentielle qui s'enflamme à gauche. Et la COP26 à 19h. Le journal de Claire Chaudière à 19h20. Le téléphone sonne avec une question toujours très sensible entre raison et passion, chasseurs et anti-chasse, peut-on arriver à s'entendre après les drames et l'accident mortel près de Rennes? On a appris hier soir la mort d'un automobiliste blessé samedi par le tir d'un chasseur. Le débat est ouvert et on attend vos questions au 01 45 24 7000 ou sur le site ou l'appli France Inter, rubrique Réagir. Merci à nos standardistes, à Clémentine Ducasse pour la page web de l'émission et merci à nos chefs d'orchestre du soir à la technique, Fabrice Desmaz, Philippe Duclos et Henri Bérec.
Frédéric Barrère. Une semaine en France.
Bonsoir Thomas Lombard.
Bonsoir.
L'actualité du rugby, c'est donc le premier match demain soir de la France dans le cadre de la tournée d'automne contre l'Argentine. Quel regard portez-vous, Thomas Lombard, d'abord sur cette jeune équipe de France, 25 ans en moyenne, 17 sélections en moyenne?
Un regard admiratif, forcément, puisque cette équipe de France a traversé, hein, il y a pas très longtemps de cela, une période de disette qui a eu d'ailleurs beaucoup de répercussions sur le rugby. Hein. On a noté que les enfants s'inscrivaient moins au rugby. C'est pas la seule raison, mais on sait qu'une vitrine, c'est important pour un sport. Donc voilà, je suis très heureux de retrouver une équipe de France avec de l'ambition. Il y a une Coupe du Monde qui arrive en 2023 en France. Il y a une génération absolument extraordinaire, hein, amenée par les Jalibert, Dupont, Ntamack et consorts. Voilà, des garçons intelligents qui font énormément de bien au rugby et qui en plus tire cette équipe de France vers le haut. Donc on est très heureux, même s'il y a du pain sur la planche avant les trois matchs.
On va être un peu technique, Thomas Lombard. Mmh. L'association dont on a beaucoup parlé entre Mathieu Jalibert à l'ouverture et Romain Ntamack trois quarts centre, les associer plutôt que de les opposer, en tout cas les faire jouer ensemble. Quel est votre avis de technicien du rugby là-dessus?
Vous savez que mon avis de technicien, c'est que quand on a des grands joueurs, il faut les mettre sur le terrain. Peu importe la place, le grand joueur, il saura toujours s'adapter. On n'apprend pas à Mathieu Jalibert ou à Antoine Dupont ou à Romain Ntamack comment jouer au rugby. Donc l'important, c'est qu'ils puissent être utiles à cette équipe et plutôt voilà de les utiliser dans un rôle de remplaçant, d'impact player, pour reprendre un mot à la mode. Je pense que le meilleur moyen, c'est de leur trouver un positionnement dans le 15 de départ, ce qui a été fait. Et je pense d'ailleurs que le numéro qu'ils auront dans le dos sera très symbolique, tellement sont des joueurs protés qui sentent le jeu et qui s'adapteront merveilleusement aux situations.
Alors Thomas Lombard, vous en parliez, est-ce qu'on a vraiment une génération dorée avec Jalibert et Ntamack dont on parle, plus Antoine Dupont, plus les autres, par rapport aux anciennes équipes de France? On avait de très bons joueurs quand même.
Oui, on avait de très bons joueurs, on a peut-être aussi trouvé le moyen de les révéler. Et à ce titre, il faut saluer le travail des clubs, hein, puisque il y a eu un effort considérable qui a été fait sur les 4-5 dernières années au niveau de la formation des clubs, avec davantage de joueurs issus des filières de formation, les fameux GIF.
GIF, ouais.
Voilà, qui permet aujourd'hui au sélectionneur Fabien Galthié d'avoir un réservoir beaucoup plus important. Il y a aussi un staff en termes de compétences au niveau de l'équipe de France qui s'est élargi. On est allé chercher un spécialiste de la défense à l'étranger qui est une référence et certainement un environnement de très haut niveau autour des joueurs. Ce qui fait quand les joueurs arrivent en équipe de France, ils sont encore un degré au-dessus de tout ce qu'ils peuvent avoir en club. Donc, vous savez, les grands joueurs, ils ont besoin d'apprendre tous les jours. Et quand ils arrivent en équipe de France, ils apprennent parce qu'il y a un staff qui est riche, qui se nourrit beaucoup aussi de ce qui se fait à l'étranger. Non pas que ce n'était pas le cas avant, hein, mais c'est quelque chose qu'on a en retour de la part des joueurs quand ils reviennent de l'équipe de France. Et voilà, et tout ça crée une dynamique emmenée par des joueurs, je le répète, hein, bien cortiqués intellectuellement, parce que c'est important, et fait ce cocktail détonnant aujourd'hui.
Alors, le match qui compte, Thomas Lombard, à 2 ans de la Coupe du Monde en France, c'est les All Blacks. C'est le match qui va permettre de connaître notre niveau, le niveau de l'équipe de France face à la meilleure équipe du monde, qu'on présente comme la meilleure équipe du monde.
Quand on est sportif de haut niveau, on veut jouer contre les meilleurs et on veut se mesurer aux meilleurs. Donc évidemment, quoi de mieux que d'affronter les All Blacks? C'est la référence absolue de ce sport, même s'ils ne sont pas champions du monde en titre, ce sont les Sud-Africains. Néanmoins, il y a quand même une première étape. Vous savez, cette équipe de France, elle a beaucoup de potentiel, elle a beaucoup de talent, elle n'a encore rien gagné. Donc voilà, il faut aller step by step, comme disent les Anglais, et construire petit à petit son hégémonie d'abord au niveau européen. Et il y a fort à faire, hein, parce que les Anglais, les Gallois, les Irlandais, même les Écossais sont des équipes redoutables. Et ce match contre l'Argentine sera quand même un peu le révélateur. Il va lancer cette tournée et ce sera difficile parce que nos amis argentins, eux jouent de manière quasi systématique les meilleurs du monde, à savoir les trois gros de l'hémisphère sud, l'Afrique du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Alors les All Blacks, Thomas Lombard, vous connaissez?
Oui.
Comment on se prépare à une tournée d'automne et comment on se prépare à affronter cette équipe?
J'ai envie de vous dire qu'on essaye d'être sur des choses assez simples parce qu'il y a d'abord un rapport individuel à l'adversaire direct, hein, à son vis-à-vis, où il faut se montrer dominant. Et puis ensuite, il y a toute une organisation collective. Je crois que la stratégie est essentielle quand on joue les Néo-Zélandais. Il faut essayer de les priver de ballon un maximum, d'être extrêmement agressif pour les empêcher de prendre de la vitesse. Voilà, c'est un peu du béaba, tout ce que je dis. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps, on a dans cette équipe de France des joueurs qui font peur. Les Néo-Zélandais, c'est l'incarnation. C'est-à-dire que vous prenez du 1 au 15, on a quasiment les meilleurs joueurs du monde. Et ben aujourd'hui, si vous constituez un 15 mondial, vous avez 3, 4, 5 joueurs de cette équipe de France qui peuvent légitimement figurer dans ce 15 mondial. Ça change la donne.
Alors Thomas Lombard, je vous propose de faire un bond de 21 ans en arrière. Le 11 novembre 2000 au Stade de France, vous êtes dans l'équipe qui affronte les All Blacks. J'imagine que c'est un moment très fort. Quand on sort des vestiaires dans le couloir avec les All Blacks à côté, on pense à quoi?
Ben moi, je pensais beaucoup à mon adversaire du soir qui était un certain Jonas Lomu. Mm-hmm. Donc, me poser la question d'essayer de le faire tomber le plus vite possible, voilà, et puis de pas tomber non plus dans l'admiration et de pas subir ce fameux AK dont on va parler.
Et voilà, c'est ça. Donc on y arrive, le fameux AK. Donc on a retrouvé celui du 11 novembre 2000. C'est le vôtre, c'est votre AK, Thomas Lombard. Vous étiez sur le terrain, on en parle après.
Qu'est-ce qu'il fait de Vivière? Ah, je peux vous dire que là, les poils s'hérissent, la tension est à son comble. Et l'équipe de France, eh bien, pour une fois, elle est restée groupée. Elle ne s'est pas présentée face à ce AK.
Voilà, on entend Thierry Lacroix qui commentait avec Pierre Selviac. Donc il dit que les poils s'hérissent, mais vous êtes resté groupé, on le voit sur les images. Vous avez la tête parfois en bas. Vous ne les regardez pas, qu'est-ce qui vous a pris?
un mélange d'appréhension et aussi de besoin de faire face, de faire front. Alors plutôt que de s'éparpiller sur le terrain, on voit d'ailleurs souvent les équipes qui cherchent des stratégies, des stratagèmes, des contre-signaux à envoyer à ce AK. Nous, on avait choisi de se regrouper ce jour-là. Ça nous a pas porté beaucoup de chance puisque je crois que le score du match était très à l'avantage des
39 à 26, ouais. Ouais. Et ouais. Vous vous blessez?
Oui. Absolument, au genou.
Et vous ratez le match du samedi d'après, voilà, à Marseille.
On a eu la chance de gagner, mais ça c'est l'anecdote. Après, il y a eu une évolution aussi dans le AK. Je crois que si on observe les AK effectués par les Néo-Zélandais, il y a encore 10-15 ans, on n'était pas du tout sur des AK aussi bien orchestrés. C'est devenu aussi, et on le comprend, un outil marketing pour un tout petit pays. Et je veux dire, vous interrogez des gens dans la rue, ils connaissent la Nouvelle-Zélande, ils connaissent un petit peu le rugby, mais ils ont tous entendu parler du AK. Ouais. C'est un outil de promotion formidable. Donc il a évolué. Il y a deux AK maintenant. Celui qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le AK traditionnel, le Kamate, et puis il y a le Kapaopongo, qui est un AK beaucoup plus guerrier, qui fait appel aux ressources tribales de la Nouvelle-Zélande. C'est très intéressant culturellement, et c'est vraiment un outil qu'ils utilisent pour créer du lien et pour mobiliser finalement des hommes qui viennent pas des mêmes tissus sociaux et qui ont pas la même histoire.
Alors Thomas Lombard, on va quitter le terrain, les crampons et votre maillot de joueur international. Aujourd'hui, vous êtes donc le directeur général du Stade Français Paris, le club de la capitale, un club prestigieux du top 14. Aujourd'hui, un club professionnel, c'est une entreprise, ça se gère comme une grande société.
Absolument. Il y a 150 salariés au Stade Français. Alors, il y a une majorité de joueurs, mais il y a aussi tout un tas de staff, des salariés administratifs qui s'occupent du marketing, de la communication, des opérations qui ont lieu dans le stade. Donc voilà, c'est une petite entreprise, une belle petite entreprise avec un budget qui approche les 40 millions d'euros.
Ouais, et une pression, j'imagine, avec ce budget très forte sur les résultats parce qu'il y a de l'argent en jeu.
Oui, pas seulement. Alors parce que, enfin, je pense que la marque Stade Français dépasse aussi le cadre du résultat sportif pur. Il y a un projet du club, on en parlera, avec des entreprises qui sont engagées. Alors évidemment parce qu'il y a une vitrine qui est l'équipe professionnelle, mais aussi parce qu'il y a une école de rugby, il y a une équipe féminine, les Pink Rockets. Oui. Voilà, il y a plein de choses qui créent un écosystème qui nous permet d'engager des gens sur la durée. Pour un projet global qui est celui du Stade Français.
Voilà, c'est le rugby pro, un club de rugby pro d'aujourd'hui.
Voilà. Ouais.
Dans votre livre Transformation, une vie de rugby, vous posez la question, le rugby peut-il se trouver un jour en danger avec l'arrivée massive d'investisseurs, l'évolution des règles, la créativité des joueurs sur le terrain peut être bridée? Est-ce que vous avez une réponse aujourd'hui?
La question c'est, est-ce que le rugby vit au-dessus de ses moyens? Bon, la réponse, on la connaît. On est certainement un peu au-delà de ce qu'on génère en termes d'économie, même si on fait pas forcément les mêmes constats partout, mais en fonction voilà des régions, le sport professionnel coûte cher. Qu'on parle de football, qu'on parle de rugby, il y a les droits télé, mais c'est vrai que pour le rugby, ils sont incomparables par rapport au foot. Hein. Ils représentent à peu près les 5 à 10% du budget des clubs, peut-être un peu plus. Voilà, donc il faut arriver à faire vivre tout ça avec des salaires qui sont aujourd'hui en constante augmentation, des effectifs aussi qui sont en augmentation, une formation qui coûte de plus en plus cher, mais malheureusement des stades et une concurrence qui est très riche au niveau de l'Hexagone.
Alors un match des années 70 ou 80 n'a plus rien à voir par exemple avec le top 14 actuel. Je voudrais vous faire écouter quelqu'un qui a de la nostalgie pour le rugby d'avant. C'est Patrick Rivaz. Il a longtemps été la voix du rugby sur France Inter et avec tout son talent. Et bien sûr, il a connu le rugby d'avant, l'ère professionnelle et aussi le rugby pro d'aujourd'hui. On écoute l'ami Patrick Rivaz et on en parle après.
J'aurais tendance à dire c'était mieux avant. Bon, bien évidemment, quand on a dépassé un certain âge et qu'on a vécu cette période de convivialité, de jovialité, de camaraderie, de gaieté, les agapes, les bacchanales que l'on faisait après les matchs, la complicité que nous avions avec les joueurs, je parle des journalistes, mais également du public où rien n'était organisé, rien n'était structuré. Attention, les joueurs voulaient gagner, bien évidemment. Et quand ils pénétraient sur un terrain, c'était pour gagner, c'était pas de la rigolade. Mais en revanche, l'environnement raisonnement n'avait strictement rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Dans les années 70, on disait que c'était le rugby gigot-haricot. Bon, dans les années 80, ça s'était déjà quand même un peu calmé, mais il persistait une ambiance, un contexte amical. Et entre les joueurs également, il n'y avait pas cette rectitude que nous connaissons aujourd'hui.
Patrick Grivaz, il y aura la Coupe du Monde 2023
ouais.
En France. Vous avez couvert la Coupe du Monde 87 en Nouvelle-Zélande.
Oui, j'ai envie de me marrer.
Pourquoi?
Mais parce que c'était totalement folklore. C'était totalement marrant. C'était la première. Il y avait quoi? Une quinzaine de journalistes français qui suivaient l'équipe de France. L'équipe de France avait pris ses quartiers d'hiver ou d'automne plutôt à 30 kilomètres de Auckland, dans un hôtel au bord de la plage qui s'appelait Mon Désir. Eh ben, Mon Désir, c'était devenu notre plaisir. On y était tout le temps. Les entraînements, on y assistait. Il y avait pratiquement pas de huis clos. Une fois l'entraînement terminé, on allait au bar avec les joueurs qui
avec
ne buvaient pas.
Ouais.
Mais effectivement. Et ça se passait, les interviews se passaient sur un tabouret, sans se préoccuper de savoir s'il y avait un attaché de presse ou un empêché de presse, comme disait Pierre Servac, maintenant qu'effectivement il sévisse pour nous dire, non mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de discuter, vous n'avez pas avec un joueur, vous n'avez pas pris rendez-vous. C'était absolument pas ça.
Et alors, ça, c'est impensable aujourd'hui.
C'est impensable. Et dans cet hôtel Mon Désir, qui était ouvert à tous les vents, le week-end, les Néo-Zélandais et Néo-Zélandaises venaient d'Auckland. Il y avait de la musique à fond, le tout sous la férule de Jacques Fourou, qui était l'entraîneur, qui était un entraîneur très exigeant. Je veux simplement relativiser en précisant quand même qu'il y avait des entraînements très durs et que les joueurs de l'époque, les Cella, les Blanco, les Charvet, les Berbizier, les Champs, les Joignel, les Rodriguez, les Garouet, bien évidemment, qui étaient négociants en pommes de terre, un personnage extraordinaire, tous ces joueurs-là s'entraînaient quand même très très sérieusement. Ils sont arrivés en finale, ils ont battu en demi-finale chez eux les Australiens, et je vous assure que le match était très sérieux. Donc il ne faut pas non plus penser que c'était la bambouche à longueur d'année.
Alors Patrick Grivaz, l'entourage, le rugby a changé, les joueurs aussi, physiquement. Ils ont pris des kilos de muscles.
C'est incroyable. Maintenant, les joueurs ont pris au minimum 10 à 15 kilos et ils ont pris 10 à 15 centimètres de taille. Et en plus, non seulement le physique a changé, mais le potentiel physique a changé. Maintenant, on fait de la musculation tout le temps, tout le temps, tout le temps. On s'entraîne deux fois par jour et c'est des entraînements extrêmement durs. Il y a une batterie de diététiciens qui vous dit qu'il faut manger des féculents et puis du poisson frais. C'était complètement inconcevable à notre époque. Les joueurs maintenant ont des GPS. Et sur ces GPS, on peut savoir leur masse musculaire, on peut savoir quelle est leur endurance. S'ils ont reçu un coup, est-ce qu'il faut qu'ils sortent? Combien de temps ils vont rester sur le terrain? Bref, on est passé dans un monde, mais totalement, totalement différent. C'est la loi du professionnalisme. Si on le suit pas, on n'a pas de résultat. C'est évident. Mais, en revanche, si on le suit, eh ben on se marre plus.
Thomas Lombard, est-ce qu'on se marre dans le rugby d'aujourd'hui?
Alors, moi, je vois des joueurs qui se marrent. Et c'est ce qui me conforte finalement dans l'idée que peut-être que c'est nous qui nous trompons et que les codes ont changé. Et à partir du moment où moi les joueurs du Stade Français, quand je les vois évoluer ensemble, ils s'amusent. Sauf qu'ils s'amusent pas avec les mêmes outils et de la même manière que nous on pouvait le faire à notre époque. Ah oui, on joue plus aux cartes. On boit peut-être, on passe un peu moins de temps au bar à discuter. Les journalistes sont plus là. C'est vrai. Mais néanmoins, ils sont heureux. Ils sont heureux d'être ensemble, ils sont heureux de pouvoir vivre de leur passion, de vivre leur passion. Et je pense qu'il faut pas regarder ça avec trop de nostalgie et être dans la comparaison. Les mondes ont changé, le rugby a changé. J'entendais tout à l'heure, il y avait 15 journalistes à la Coupe du Monde en 87. Mais si aujourd'hui l'équipe de France décidait d'ouvrir aux journalistes, c'est impossible. Il y a 50, 60 journalistes. On pourrait pas le faire. Bien que au Stade Français, il y a encore juste avant le malheureusement la pandémie de Covid, on a réouvert les vestiaires et les journalistes qui couvraient le match sont rentrés dans les vestiaires faire les interviews des joueurs. Ils en croyaient pas leurs oreilles quand je leur ai annoncé. Mais ça montre que c'est possible. Mais on est aussi obligé de vivre avec les contraintes de notre temps. Et c'est un sport qui s'est considérablement développé. En termes de médiatisation, et donc on a davantage de monde qui s'y intéresse, et il faut aussi des règles par rapport à tout ça.
Alors Thomas Lombard, on va passer comme tous les vendredis à l'actualité de la semaine avec ce mix mis en onde par Frédéric Milano. Et elle a une cette semaine, la COP26, le contrat d'engagement jeune, le procès des attentats du 13 novembre, Sophie Petronin qui repart, Anne Hidalgo qui s'énerve et chapeau aux streamers et gamers de The Event et au Goncourt, Mohamed Mbougarsar. Mais d'abord, l'épidémie de Covid, on l'avait presque oublié, mais elle repart à la hausse, une hausse modérée. Le port du masque redevient obligatoire à l'école primaire dans 61 départements au total. Ça gâche un peu la fin des vacances, selon cette mère de famille.
Je pense qu'ils vont être très déçus de devoir remettre le masque. Pour eux, c'était un meilleur contact avec leurs camarades, avec leur maîtresse et... C'était une libération pour eux et j'espère aussi que c'est pas un signe que l'épidémie repart et que ce sera pas que le masque mais d'autres choses aussi quoi.
La planète a les yeux tournés vers Glasgow et la COP26, jour 5, les chefs d'État l'ont promis. Nous serons au rendez-vous de nos engagements, Marie Covey de l'association ANV COP21.
Encore une fois, ils ont fait des discours qui sont magnifiques. Hein. J'ai pas de problème avec ça, mais en termes d'action, on n'a rien. On a la répétition de ce qu'ils ont dit il y a 6 ans. C'est-à-dire l'objectif de 1,5 degré. C'est une blague.
500 euros par mois en échange d'une formation, c'est le contrat d'engagement jeune promis en juillet et précisé par le Premier ministre Jean Castex.
Aujourd'hui, 500 000 jeunes en situation d'éloignement durable de l'emploi. Nous nous fixons l'objectif d'en accompagner au moins 400 000 en 2022 grâce au contrat d'engagement jeune.
Mais pas d'engagement pour l'égalité salariale entre hommes et femmes. Rebecca Amsalem, créatrice de la newsletter Les Glorieuses.
On a tendance à dire que si les femmes gagnent moins que les hommes, c'est de leur faute. On a tendance à dire que c'est parce qu'elles n'oseraient pas demander une augmentation, elles n'oseraient pas négocier. Et ces éléments, en fait, sont faux. On se rend compte, des études ont montré que les femmes demandent des augmentations de salaire, mais on leur refuse davantage qu'aux hommes.
À Paris, au procès des attentats du 13 novembre, après les témoignages des victimes, en long, en large et en larmes, paroles aux accusés, Salah Abdeslam et ses complices de l'horreur, maître Jean Reynard, avocat des parties civiles.
Son discours un peu guerrier, hargneux, ben il a disparu parce qu'il y a eu 400 témoignages de parties civiles et personne n'a pu être indifférent à tous ces témoignages. Peut-être qu'il a été rué et il veut peut-être présenter une autre image de lui. Salah Abdeslam, il s'est adapté, il est un peu caméléon, hein, très intelligent. Donc on attend vraiment de savoir pourquoi cette personne qui a été dans une famille aimante, structurée, a pu dériver comme nous l'avons vu.
Sophie Petronin retourne au Mali, un choix qui fait débat. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement.
Évidemment que nous déplorons le retour de Sophie Petronin au Mali. Il y a une forme d'irresponsabilité vis-à-vis de sa sécurité à elle, mais aussi vis-à-vis de la sécurité de nos militaires. Je rappelle que lorsque nous avons des ressortissants qui sont pris en otage à l'étranger, ce sont nos militaires qui vont les secourir au péril de leur vie.
Et pendant ce temps, dans la course à la présidentielle, à gauche, la campagne s'enflamme, et notamment Anne Hidalgo, déclaration tonitruante vis-à-vis d'Éric Zemmour.
J'en appelle à ce que cette élection présidentielle soit une vraie élection présidentielle, et pas un débat sur cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol. Monsieur Zemmour assène des messages racistes, des messages antisémites. Écoutez, réveillez-vous.
La preuve que la francophonie se porte bien, le prix Goncourt attribué à l'écrivain sénégalais Mohamed Mbougarsar pour la plus secrète mémoire des hommes aux éditions Philippe Ray.
Il faut que l'espace francophone devienne, je pense, plus démocratique et qu'on remarque plus, qu'on soutienne plus les écrivains qui viennent de cet espace-là. Et je pense, j'espère que ce sera le cas et que ce ne relèvera plus d'une sorte d'exception.
Et le coup de chapeau de la semaine aux streamers et aux gamers de The Event. Ils ont récolté plus de 10 millions d'euros pour Action contre la faim. Lucie Codias, directrice de la com d'ACF.
Alors là, je vous avoue que c'est vraiment une énorme surprise pour nous. On ne s'attendait pas du tout à cette somme. Donc on sait que dans ce million, c'est des gens très jeunes, voilà, entre je dirais 15 et 35 ans. Et moi, j'ai confiance en cette génération. C'est une façon d'agir qui est collective, avec beaucoup de petits dons. Il y a beaucoup de dons à 1 euro, par exemple, dans une ambiance vraiment bonne enfant, très bienveillante, où il y a beaucoup de rire, alors même qu'on peut parler de sujets graves comme la faim dans le monde. Et ça, pour moi, c'est la révolution.
Un mix réalisé par Frédéric Milano. Thomas Lombard, une réaction à ce petit résumé de l'actualité de la semaine.
C'est déjà extrêmement dense et plutôt triste, tout ce qu'on entend, hein, entre... les attentats, la violence aussi de certaines déclarations. Je trouve que voilà, il y a une forme d'ambiguïté dans tout ça. On essaie de lutter, de se protéger contre un certain nombre de choses, dont le terrorisme, et heureusement d'ailleurs. Et puis on a des déclarations, des prises de position qui sont extrêmement violentes. Voilà, on observe ça, et nous, dans notre petit microcosme du sport, on se dit que voilà, on a un petit peu de chance quand même d'être relativement protégé de tout ça. Et d'ailleurs, je crois que le sport a d'autres messages et des messages à faire passer pour ramener un petit peu peut-être les gens dans le droit chemin. Et je le dis avec beaucoup de modestie.
Par exemple, vous pensez à quoi, Thomas Lombard?
Mais on va parler d'environnement tout
oui,
à l'heure.
Oui.
Par exemple, mais voilà, je crois que le trop longtemps on a peut-être peu écouté ou pas écouté ou pas donné la parole à des gens qui s'engageaient. Il n'y a pas que l'engagement politique, il n'y a pas que l'engagement dans l'entreprise, il y a l'engagement sur le terrain. Et les sportifs sont des gens engagés, pardon, qui ont des choses à dire. Et peut-être qu'il faudrait leur tendre un peu le micro, alors qu'ils le prennent aussi. C'est aussi un point sur lequel on pourra revenir. Les sportifs s'expriment parfois de moins en moins. Ils sont encadrés dans une forme de communication. Et ça, c'est la responsabilité des clubs de libérer la parole. Mais voilà ce que tout ça m'inspire.
Alors vous en parliez de l'écologie, Thomas Lombard, et la COP26 fait partie d'une de l'actualité oui. Cette semaine, la COP26 à Glasgow. L'écologie au Stade français, dans d'autres clubs du top 14, devient une question importante et un engagement pour vous. Vous avez notamment organisé le premier match dédié à la planète.
Oui, absolument. On a essayé de mobiliser un maximum de joueurs, de joueuses, dans cet enjeu. De l'environnement, de l'écologie. On a d'ailleurs un projet global pour le club qui a quatre piliers, l'éducation, rassembler et innover. Et dans la partie innovation, on a évidemment tout ce projet RSE qui a été labellisé par l'AFNOR. On est le premier club sportif à avoir un projet global qui est labellisé par un organisme aussi sérieux que l'AFNOR. Et évidemment, cet engagement écologique, parce que d'abord, c'est une question de bon sens par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui au quotidien, dans nos vies. Et puis c'est aussi un moyen, parce que les jeunes sont, et quand je dis les jeunes, je parle des plus jeunes, moi j'ai un fils qui a 10 ans, ils sont attentifs, et je pense qu'ils ont pas du tout les mêmes conceptions, les mêmes approches, les mêmes constats que nous, et ils sont déjà très engagés et très inquiets aussi. Donc il faut faire passer le message, je reviens à cette idée d'envoyer des ondes et des messages positifs aux gens, et utiliser le sport, c'est un vecteur de communication très puissant. Donc c'est pour ça qu'on a embarqué nos joueurs, nos joueuses là-dedans, et que ce match de la planète, grâce à la fondation Good Planet et à Yann Arthus Bertrand, a pu être monté, et qu'on voilà qu'on essaye au travers de d'un certain nombre de manifestations qu'on va organiser. Il y a eu une marche qui a eu lieu le jour de la rencontre, depuis la fondation Good Planet jusqu'au stade de Jean Bouin, où on a ramassé un certain nombre de déchets. Il y a plus de bouteilles d'eau en plastique dans le stade. On fait le bilan carbone du Stade français, et voilà, et on essaye avec nos moyens de contribuer à amener un changement idéologique là-dessus.
Thomas Lombard, est-ce que vous avez envisagé des maillots éco-responsables? On en parle dans certains clubs.
Oui, ça fait partie des choses sur lesquelles on réfléchit. Après, vous savez, le meilleur moyen de réussir, c'est d'éduquer. Et éduquer, c'est apprendre. Donc il faut des gens qui prennent le taureau par les cornes. Et on a la chance d'avoir en interne chez nous des gens qui sont extrêmement mobilisés. Je parle de joueurs, je parle de salariés. Et qui, voilà, au quotidien, rappelle, pointe du doigt les dysfonctionnements. Et ça permet de faire changer sur le long terme les gens, et de les embarquer dans quelque chose qui dépasse la simple performance sportive. Et on l'a vécu pendant le Covid. C'est-à-dire que l'éloignement des gens a fait qu'ils se sont retrouvés chez eux, bloqués, sans rien faire, pouvaient plus contribuer à leur fonction quotidienne dans le club. Et la réflexion qu'on a pu entretenir autour de ce projet écologique les a réembarqués. Et ils se sont dit qu'il y avait quelque chose de plus puissant qu'eux, qui pouvait à nouveau les mobiliser et avoir des actions au quotidien concrètes.
Alors je voudrais qu'on aborde aussi un autre aspect qui vous tient vraiment à cœur, hein. Vous parliez d'éduquer, c'est la formation des joueurs de rugby. Oui. Vous dites, un joueur qui veut faire que de rugby, il vient pas au Stade français.
Non, il vient pas au Stade français et je dis pas ça par prétention, je dis ça parce que si on observe l'histoire du rugby, la singularité de ce sport, c'est ça, c'est le double projet. Le rugby, c'est une agrégation de personnes issues de tissus sociaux différents, avec pendant très longtemps des métiers différents, et tout le monde apprend, tout le monde s'enrichit au contact des uns des autres. Et puis la professionnalisation arrive, et on perd un petit peu tout ça. On a tous le même survêtement, on vit dans des centres de formation, et on apprend moins, et l'accès à la connaissance n'est plus obligatoire, parce que, ou en tout cas est moins mis en avant, parce que finalement ce qui est important, c'est de faire un bon joueur de rugby. Mais est-ce que la vraie question, c'est pas de faire d'abord une meilleure personne qui deviendra ensuite un meilleur joueur de rugby. C'est pour ça que au Stade Français, on a évidemment des contraintes en termes de d'immobilier qui nous permettent pas d'avoir un centre de formation aussi important, aussi conséquent, parce que le foncier dans le 16e arrondissement, ça coûte cher. Mais en revanche, on a grâce à Paris accès à un certain nombre d'écoles, d'universités, qui permettent voilà de proposer aux jeunes non pas un concept sur mesure pour qu'ils deviennent des bons joueurs de rugby, mais un projet de vie, tout simplement, avec de la citoyenneté, avec de l'apprentissage, et surtout quelque chose qui permettra que le jour où leur carrière s'interrompra, ils pourront entamer leur deuxième vie avec beaucoup plus de sérénité.
Voilà, les études et la formation, c'est important, parce qu'il y a aussi un risque de blessure important pour les joueurs de haut niveau, les joueurs de rugby, et donc il faut se former, préparer un métier.
Il faut se former, il faut. Et puis, objectivement, combien de temps par jour un joueur professionnel consacre à sa pratique? Allez, 3-4 heures. Ça lui laisse quand même le temps de faire autre chose.
Ouais, hein, Dussautoir, Josion ont été ingénieurs.
Ce sont les derniers exemples. Et c'est pas vieux, hein. C'est 5 ans, 6 ans en arrière. Sauf qu'ensuite, il y a un gap. Et c'est ce gap-là qu'il faut combler. Et je pense que pendant très longtemps, le système éducatif en France a été un petit peu trop inflexible. C'est-à-dire que voilà, il fallait faire soit des études, soit du sport. Et aujourd'hui, j'ai le sentiment, et je le dis avec beaucoup de prudence, mais j'ai quand même le sentiment que l'inflexibilité, elle est plus du côté du monde sportif. On dit, oh non, il faut un minimum de pratique quotidienne, et puis ensuite, il faut que les joueurs... Non, les joueurs, il faut qu'ils fassent leur sport, évidemment, mais il faut qu'ils aient autre chose. Parce que quand un individu a une source d'intérêt et de développement qui va au-delà du simple cadre d'expression de son activité sportive, il devient meilleur, et surtout il arrive avec beaucoup plus d'enthousiasme le matin pour pratiquer son sport.
Alors, je voudrais qu'on revienne au jeu, à une très mauvaise publicité quand même pour ce sport, c'est la violence dans le rugby, Thomas Lombard. Il y a une image assez effrayante de ce début de saison, un plaquage insensé sur Maxime Ducu lors d'un match à Castres, le demi-mêlée de Bordeaux, percuté de plein fouet et en plein vol par un joueur castré. Alors on écoute les commentaires en direct sur Canal+, qui diffuse le top 14, on entendra ensuite les réactions de Christophe Furios, le manager de Bègles Bordeaux, au micro de Canal.
Sur Buros, Lucu. Oh
non.
Oh, le tampon.
Ouais, c'est carton rouge direct.
Ouais, c'est carton rouge direct. Alors, est-ce qu'il est resté au sol, Maxime Lucu? Oui, il est au sol. Il est resté au sol. Et Rino. Elle est terrible, cette image. Elle est terrible.
Maxime Lucu va bien. Ouais, et on est ravis pour lui. C'est d'ailleurs Christophe Furios qui l'a confirmé en conférence de presse tout à l'heure.
Bon, ça va. Je ne donnerai pas les nouvelles de celui qui a fait le mauvais geste. Hein. J'avais jamais eu ça. Un truc, heureusement qu'il le prend là. S'il le prend, il peut le tuer. Hein.
Thomas Lombard, c'était un plaquage assez effrayant. Comment on lutte dans un club au Stade Français pour éviter ce genre de geste?
Vous savez, l'exemple vient du haut. Et donc il faut qu'au niveau des clubs professionnels, on ait une attitude qui soit absolument irréprochable. Pendant longtemps, et même aujourd'hui encore, je dirais, on a, au travers de statistiques, de data, pour reprendre un terme à la mode, on a mis en avant ce qu'on appelle les plaquages offensifs. C'est une erreur, parce que le joueur, ben voilà, il y a trois types de plaquages. Il y a le plaquage réussi, le plaquage subi, et parfois le plaquage offensif. Alors le plaquage offensif, vous le comprendrez, c'est celui où on fait reculer l'adversaire. Donc le joueur, si vous lui laissez le choix entre les quatre, il va choisir le plaquage offensif. Sauf que le plaquage offensif, ben à un moment, c'est un joueur lancé et un autre qui est arrêté qui va essayer de le stopper net. Donc voilà, peut-être qu'il faut réfléchir à tout ça. Après, il y a un certain nombre de skills qu'on doit retravailler. Et c'est pour ça que la Fédération française de rugby, avec l'aide de World Rugby, qui est l'organe qui fait les règlements et qui régit le rugby, a imposé chez les jeunes un plaquage en dessous de la ceinture.
Voilà,
et on est en train de revenir à tout ça avec des résultats quand même qui sont plutôt probants.
Thomas Lombard, on se retrouve dans quelques minutes. On écoute Arthur H.
Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir sur le sentier. L'étoile filante s'est sauvée hors de tout regard. Les yeux fermés, j'ai brodé les fils d'or de ton corps. La nuit a divulgué tes audaces dissimulées. La nuit a désarmé mes rêves les mieux gardés. Nancy, si tu savais comme la mer est belle ce soir, quand la lune s'est levée, j'ai cru t'apercevoir au loin danser. C'est lent, sinon, Nancy. Nancy, c'est si lent. Si lent, sinon, Nancy. Tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit, allongé comme évanoui. J'imagine que tu souris. Comme dit Rimbaud, à peu près, l'éternité, quoi, est retrouvée. Oh, bel Arthur, le supplice est sûr, Nancy s'en est allée. Au loin danser.
Arthur H et son titre Nancy, bien choisi par Djoubaka. Et le clip est magnifique, Thomas Lombard, tourné sur les plages landaises.
France Inter, le 18-20. Frédéric Barrère.
Une semaine en France avec notre invité Thomas Lombard. Et on va parler de vous maintenant. Vous découvrez le rugby un mercredi de septembre 87 au Chesnay. À reculons ou pas? Ou poussé
avec
par votre
pression,
papa.
La pression du paternel, oui, qui avait quand même plutôt attendu un certain nombre d'années avant de m'amener sur un terrain. Il avait été patient, mais il m'avait raconté toutes ces histoires. Donc il y avait quand même un enjeu pour moi. Il fallait que je me montre au niveau de ce qu'il avait accompli, même si j'étais encore qu'un jeune gamin.
Et votre père, un joueur de rugby de première division.
Oui. Absolument.
Ouais. Qui était prêtre avant de changer de voie, d'être psychothérapeute, c'est ça?
Ouais, il a eu une très belle vie. Il est disparu il y a quelques semaines maintenant, en arrière. Et ouais, c'est quelqu'un qui, comme tous les pères, qui a beaucoup compté dans ma vie, qui a été une source d'inspiration, de motivation, parce que voilà, j'avais vraiment quelqu'un en face de moi. Et bah voilà, le fils, à un moment, il a envie de dépasser son père, ou au moins de faire aussi bien et d'exister. Donc ouais, ça a été un grand bonhomme pour moi.
Et ensuite tout s'enchaîne, hein, lycée sport études à La Canale, au lycée La Canale de Sceaux, le Racing Club de France avec le nœud papillon rose à l'époque, hein, et puis l'arrivée au Stade Français, le grand rival parisien. Vous signez le contrat sur un capot de voiture.
Ouais, c'était deux trajectoires qui se croisaient. Le Racing qui perdait un petit peu de sa superbe et de son rayonnement sur la région parisienne, et le Stade Français amené par Max Guazzini, qui lui était sur une trajectoire fulgurante qui le mènera vers les sommets. Donc j'ai choisi de rejoindre le Stade Français à ce moment-là.
Parlez-nous de ces années quand même au Stade Français, où le Stade Français a avec vous dans l'équipe a rendu le rugby encore plus accessible, a offert des places gratuites pour les femmes et pour les enfants, a popularisé ce sport en faisant un show à l'américaine, je me trompe pas?
Oui, c'est le succès d'un homme. Nous, on était sur le terrain et on percevait pas tout ça. On s'en est rendu compte a posteriori de la chance et du privilège qu'on avait eu de pouvoir vivre ça. C'est Max Guazzini qui a eu un côté un peu iconoclaste, pour pas dire très iconoclaste, quand il a bouleversé le rugby à lui tout seul, contre les convenances, contre la vie des uns et des autres. Et finalement, il a influencé, il a créé un rugby sur lequel aujourd'hui beaucoup de clubs surfent, avec l'entertainment autour du stade, avec des joueurs qui sont devenus des stars pour certains, avec des calendriers, des maillots qui sont plus tout à fait les maillots aux couleurs traditionnelles qu'on avait connus, mais voilà, qui ont contribué à promouvoir le rugby dans son ensemble, dans une nouvelle dimension, et à en faire ce qu'il est aujourd'hui.
Alors vous parliez du calendrier des dieux du stade, on vous retrouve dans ces calendriers. Il y a aussi les maillots roses. Là vous étiez parti, vous n'étiez plus au Stade Français avec ce maillot rose qui a été très contesté. Enfin en tout cas c'était un choc visuel avant d'être accepté.
Tout était contesté parce que le rugby est un sport très conventionnel. Hein. Ouais. On change pas beaucoup, on n'aime pas trop ouvrir le cercle aux non-initiés. Et Max, il a bouleversé tout ça, quoi. Il a tapé dans la fourmilière et c'est vrai qu'il a, je parlais tout à l'heure de codes pour les nouvelles générations. Lui, il a bousculé les codes, il a amené les siens, qui étaient ceux du showbiz, puisqu'il était à l'époque numéro 2 de la radio Énergie. Et donc voilà, c'était une approche beaucoup plus marketing, extrêmement créative, et il a réussi à l'appliquer au rugby, ce qui était quand même pas un truc gagné dès le départ.
Alors en 2008, vous annoncez la fin de votre carrière. Une malformation cardiaque, et vous devenez journaliste, ou en tout cas consultant rugby, notamment pour Canal. Vous vouliez être journaliste, je crois, plus jeune.
Oui, c'était une possibilité. C'était une possibilité, et donc du coup, je suis revenu sur ce chemin que j'avais ignoré pendant quelques temps, puisque le rugby passait professionnel, donc j'avais évidemment fait le choix d'aller vers la passion, peut-être plutôt que vers la raison, mais je m'y suis rendu quand même à un moment ou à un autre.
Merci beaucoup, Thomas Lombard, de nous avoir accompagnés dans ce 18-20. Merci beaucoup, Thomas Lombard.